en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Personnages, personnalités, caractères, le meilleur et le pire. Le thème fut décliné durant toute l'année 2003 par l'Académie des sciences morales et politiques, présidée alors par M. Emmanuel Leroy-Ladurie. Chaque lundi, un académicien ou un invité extérieur présentait une communication évoquant, illustrant ce thème. Et le lundi 24 février 2003, Stéphane Courtois, directeur de recherche au CNRS, évoquait Staline. Nous l'écoutons.
À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Iosif Vissarionovitch Djougachvili, plus connu sous le pseudonyme de Staline, l'homme d'acier, le moment est largement venu pour les historiens de se pencher de manière approfondie sur l'une des figures politiques les plus contrastées du siècle passé qui a suscité en son temps adoration et diabolisation. Dès les années 1930, Staline était devenu un symbole honni par tous ceux qui combattaient le communisme, qu'ils fussent ses concurrents les plus proches, comme les fascistes et les nazis, ou au contraire, qu'ils aient perçu en celui-ci le chef d'un système anti-humain, comme le pape Pie XI, par exemple, dans son encyclique, dans son encyclique Divini Redemptori, du Redemptoris du 19 mars 1937. À l'inverse, en URSS, dans les pays communistes et dans les partis communistes qui n'étaient pas au pouvoir, Staline a été l'objet d'un formidable culte et le critère absolu de la fidélité au communisme. Critiquer Staline, si peu que ce soit, c'était passer dans le camp de l'ennemi de classe. Dans la première hagiographie publiée en France en 1935, l'écrivain Henri Barbusse décrivait le secrétaire général du Parti communiste bolchevique d'Union soviétique, comme il s'appelait alors, je cite, comme « l'homme à la tête de savant, à la figure d'ouvrier et à l'habit de simple soldat », ce qui fait compose une figure assez curieuse. Et en 1937, Maurice Thorez, qui était déjà le chef du Parti communiste français, lui dédicaça sa propre autobiographie intitulée « Fils du peuple » dans les termes suivants que nous venons de retrouver dans les archives, je cite, « au camarade Staline, le constructeur génial du socialisme, le chef aimé des travailleurs du monde entier, le guide des peuples, le maître et l'ami qui me fit, un jour heureux entre tous, le grand honneur de me recevoir, en témoignage de ma fidélité absolue et de mon amour filial, Thorez. » Alors génie, guide, maître, ami, fidélité, amour filial, autant de termes forts éloignés du registre politique et qui pourtant rendent bien compte de ce que le communisme fut avant tout une passion révolutionnaire, mais aussi une passion messianique. Le salut des travailleurs et des peuples était en principe assuré par l'amour que Staline leur portait et qu'en contrepartie, évidemment, chaque communiste et chaque travailleur devait porter à Staline. Le 70e anniversaire du vainqueur de Stalingrad en 1949 fut d'ailleurs l'occasion du plus stupéfiant déferlement d'adoration qu'un humain ait pu connaître au XXe siècle. Le PCF ne fut pas en reste, qui publia brochures, diffusa même un film intitulé « L'homme que nous aimons le plus ». Et dans l'Humanité de novembre 1948, Paul Éluard publia à son tour à la gloire de Staline un poème qui, il faut bien dire, était relativement halluciné, que je ne citerai pas. Et Louis Aragon, que je vais citer, à Moscou, le 28 janvier 1953, c'est-à-dire quelques semaines seulement avant la mort de Staline, déclarait, je cite, « cette distinction, il s'agissait du prix Staline, cette distinction porte le nom du plus grand philosophe de tous les temps, de celui qui éduque les hommes et transforme la nature, de celui qui a proclamé que l'homme est la plus grande valeur sur Terre, de celui dont le nom est le plus beau, le plus proche, le plus étonnant dans tous les pays pour tous ceux qui luttent pour leur dignité, le nom du camarade Staline. » Alors, si l'adoration était réservée aux croyants communistes, l'admiration était largement répandue chez les autres. Et lors de la mort du dictateur, par exemple, après le 5 mars 1953, le président de la Chambre des députés, Édouard Herriot, avait proposé à l'Assemblée de s'associer profondément à la douleur du peuple soviétique et d'observer une minute de silence à la mémoire du maréchal Staline. Et seuls deux députés avaient refusé de se lever. Alors, les raisons de cette adulation générale étaient évidemment fort diverses. Chez les communistes, elles relevaient d'une croyance profondément enracinée dans leur triple passion, révolutionnaire, scientiste et utopiste, et elles confinaient à un amour pseudo-mystique. Chez les non-communistes, elle reposait sur la reconnaissance incontestable aux vainqueurs des armées nazies, ce que j'appelle, en plagiant François Furet, le charme universel de Stalingrad, sur une certaine fascination pour l'idée révolutionnaire, en particulier en France, et sur sa violence inhérente, et aussi, plus trivialement, sur les impératifs, évidemment, de la Realpolitik. Chez tous, elle devait beaucoup à une formidable propagande, car Staline avait pris soin personnellement, dès les années 30, de réécrire l'histoire de la révolution bolchevique afin de s'y attribuer le premier rôle, n'hésitant pas, pour rendre la chose plus crédible, à faire disparaître, d'abord symboliquement, dans les bibliothèques et sur les photos, et puis physiquement, lors des purges et des procès à grand spectacle, les principaux acteurs et témoins de cette histoire. Pourtant, dès 1935, Boris Souvarine avait publié la première et remarquable biographie de Staline où il retraçait le parcours du Géorgien vers le pouvoir absolu. Et en 1939, alors qu'il préparait une réédition de cette biographie, il développa le portrait de Staline comme l'un des grands criminels de l'histoire et il dénonçait, je cite, « sa terreur autocratique sans exemple présent à la mémoire humaine ». Alors ce portrait de grand criminel fut depuis largement complété, en particulier par les ouvrages de Robert Conquest et d'Alexandre Solzhenitsyn, pour ne citer qu'eux, et plus récemment dans le livre noir du communisme, Nicolas Werth, que je crois que vous avez entendu ici il y a quelques semaines, a présenté une remarquable synthèse de la dimension criminelle du communisme soviétique, tant sous Lénine que sous Staline. Grâce à l'exploitation de plus en plus active des archives soviétiques et d'Europe de l'Est, on saisit mieux aujourd'hui les contours de cette gigantesque terreur de masse, scandée par quelques événements majeurs que je voudrais rappeler. Et d'abord, la guerre contre la paysannerie, qui accompagna la collectivisation forcée des années 1929-1933, avec le fameux slogan lancé personnellement par Staline, « Liquidons les koulaks en tant que classe ». En 1930-31, environ 30 000 koulaks furent fusillés, 1 680 000 autres furent déportés avec leurs familles, pendant que 1 million d'autres fuyaient leur village et que 2 millions étaient exilés dans des régions éloignées et relativement inhospitalières. Puis ce fut à l'été 1932 et jusqu'au printemps 1933, la grande famine organisée contre la paysannerie ukrainienne, en décrétant la réquisition par l'État de l'ensemble des récoltes et en envoyant des dizaines de milliers de commandos communistes armés s'emparer par la force de l'ultime ravitaillement des récalcitrants, Staline a provoqué un véritable génocide de classe et d'ethnie qui a entraîné la mort de 5 à 6 millions de personnes en 9 mois. Ensuite, après l'assassinat de Kirov, un des bras droits de Staline, le 1er décembre 1934, le dictateur a commencé à programmer la Grande Terreur, inaugurée à l'été 36 par le premier des trois grands procès de Moscou. Et Iejov, Nicolas Iejov, le chef du NKVD et de la police politique, fut alors chargé de liquider les ennemis du peuple selon des quotas fixés à l'avance et des modalités qui ne comprenaient que deux catégories. La première, fusillée, et la seconde, déportée. Désormais, les ordres opérationnels du NKVD, que nous retrouvons progressivement dans les archives à Moscou, directement inspirés par Staline, ont scandé les 14 mois qui courent du 30 juillet 1937 arrêtés, dont plus de 668 000 qui ont été exécutés, les autres étant envoyés en déportation. Alors, les accords Molotov-Ribbentrop du 23 août 1939 et du 28 septembre 1939, en provoquant la conquête par l'armée rouge de la partie orientale de la Pologne, puis en juin 40 des États baltes et de la Bessarabie et de la Bucovine du Nord, ont entraîné de nouvelles vagues de terreur contre ces nations qui ont été immédiatement soviétisées. Je n'en citerai que deux, la Pologne. Les soviétiques firent immédiatement 230 000 prisonniers de guerre, dont la moitié a été libérée, mais dont l'autre moitié a été soit envoyée au goulag, soit incorporée de force dans l'armée rouge, comme nouveaux citoyens soviétiques, évidemment. Et surtout, le 5 mars 1940, sur rapport de Beria, Staline et le Politburo ont décidé de faire assassiner 25 700 Polonais qui étaient internés, dont 14 587 officiers qui étaient prisonniers de guerre, dont les fameux 4 243 qui ont été tués d'une balle dans la tête au charnier de Katyn. Précisons enfin, là encore, les archives nous éclairent singulièrement, que le 2 mars 1940, Staline, c'est-à-dire trois jours avant cette décision du bureau politique, Staline donne à suite à la demande de Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste d'Ukraine, qui sollicitait l'autorisation de déporter les 22 à 25 000 familles des hommes qui allaient être condamnés dans les jours suivants à mort, ce que le Politburo, évidemment, lui accorda. Ce qui représente plus de 65 000 personnes environ, femmes et enfants essentiellement. Parallèlement, le NKVD lança de grandes opérations de déportation et sur une population de la Pologne orientale qui représentait environ 12 millions de personnes, le régime soviétique fit entre septembre 39 et juin 41 plus de 440 000 victimes, ce qui donne un ordre de grandeur. Avec bien sûr massacres et déportations qui reprirent en 1944-45 quand l'armée rouge repassa par là. En ce qui concerne l'Estonie, c'est à peu près la même chose. L'armée rouge entra en Estonie le 12 juin 40 et instaura immédiatement une vague de terreur qui fit entre juin 40 et mai 45, c'est-à-dire le retour définitif de l'armée rouge, environ 175 000 victimes, soit 17,5% de la population, ce qui rapportait à la France d'aujourd'hui correspondrait à plus de 10 millions de personnes. Tout de même assez impressionnant. Alors bien sûr, les mêmes méthodes furent pratiquées en Lituanie, en Lettonie, en Bessarabie, en Bucovine du Nord. Et la guerre fut l'occasion pour Staline de poursuivre ses opérations génocidaires, avec la déportation à l'automne 1941 de 900 000 Allemands de la Volga. La déportation en trois jours, du 27 au 30 décembre 1943, de 93 000 Kalmouks. La déportation tout à fait, sans doute, le record du monde, en cinq jours, du 23 au 28 février 1944, de 521 000 Tchétchènes, en cinq jours. ...du monde, et qui se transformait rapidement en parti État. Staline n'est donc pas l'obscur apparatchik décrit par Trotsky, mais l'un des collaborateurs directs de Lénine et parmi les plus appréciés pour son soutien sans faille au leader, son sens de la discipline, son sang-froid, sa fermeté de caractère exceptionnelle, sa détermination et son absence totale de scrupules et de pitié dans l'action, qui ont été des atouts majeurs pour les bolcheviks lors de la guerre civile de 1918-1920. Et c'est donc tout à fait logiquement que dans ce qu'on appelle son testament, qui était dicté fin décembre 1922 dans ses derniers moments de lucidité, Lénine a désigné Staline comme l'un des deux principaux responsables du parti après sa mort, avec Trotsky. Alors bien sûr, je ne détaillerai pas l'histoire de la bataille de succession qui est assez connue, mais dans cette bataille, Staline a montré infiniment plus de volonté et de sens tactique que ses adversaires. Il a joué à la perfection les uns contre les autres. S'étant emparé du parti, Staline l'a remodelé à sa main, en assurant la promotion de millions de jeunes issus des campagnes, au capital scolaire souvent très faible, qui étaient évidemment fascinés par les situations qui leur étaient promises, mais qui, en contrepartie, étaient contraints de démontrer en acte, aussi souvent que nécessaire, leur allégeance totale à leur chef et au premier d'entre eux, à Staline, y compris par leur compromission dans les assassinats de masse. En retour, ce parti formé de jeunes gens frustes, brutaux, grossiers, s'est reconnu dans ce chef, issu comme lui du petit peuple, à la différence, il faut le souligner, de la plupart des chefs bolcheviques historiques, qui étaient des lettrés marxistes, issus de la petite noblesse, de la bourgeoisie russe ou des communautés juives des villes. En six années, Staline s'est imposé comme le patron, le vojt, comme on dit, le guide, à la suite d'une série de manœuvres où il a montré toutes ses capacités d'homme de pouvoir, mais surtout une compréhension aiguë de la nature totalitaire du régime qui, déjà sous Lénine, reposait sur le principe du parti unique, de l'autorité incontestée du chef et de l'unité absolue du parti. Alors la bataille avec Trotsky a porté dès le second semestre 1923, c'est-à-dire extrêmement tôt, sur deux points majeurs, la nature du pouvoir et la nature du processus révolutionnaire. La nature du pouvoir, d'abord. La nature du processus révolutionnaire. À la différence de beaucoup d'autres bolcheviks, Staline avait compris que la conquête du pouvoir modifiait la nature du parti, qui, de parti mouvement révolutionnaire, devenait un parti État. Et le 19 janvier 1924, il fit adopter une résolution qui dénonçait, chez Trotsky, je cite, « une tentative directe de discréditer l'appareil du parti qui ne pouvait, objectivement parlant, conduire à rien d'autre qu'à soustraire l'appareil de l'État à l'influence du parti ». Donc les enjeux étaient parfaitement clairs très tôt. Alors derrière cette querelle un peu byzantine se cache en fait l'une des bases du système totalitaire, c'est-à-dire la prééminence constante du parti sur l'appareil d'État, de l'idéologie sur les contraintes de gouvernement, des idéocrates sur les technocrates et ce qu'on a appelé à la période maoïste des rouges sur les experts. L'autre point d'achoppement avec Trotsky portait sur les voies et moyens de la révolution bolchevique, et d'abord sur le moyen de conserver le pouvoir à tout prix et de développer la puissance communiste qui avait été inaugurée en novembre 1917. Là encore, Staline a fait preuve d'un très grand sens politique et d'une formidable efficacité. Il ne croyait pas à la puissance du mouvement ouvrier révolutionnaire. Il était convaincu au contraire que le seul moyen de sauvegarder, de renforcer le pouvoir soviétique reposait sur ce qu'il a appelé la construction du socialisme dans un seul pays, slogan qu'il avait rendu public dès le 17 décembre 1924, c'est-à-dire là encore très tôt. Alors ce choix stratégique de la construction du socialisme dans un seul pays a impliqué trois décisions majeures, très audacieuses. La première a engagé l'URSS dans une industrialisation accélérée, placée sous le signe du premier plan quinquennal, inauguré en 1928. Cette industrialisation développait une sidérurgie lourde et une industrie automobile et aéronautique destinée à doter l'URSS d'une grande armée moderne et mécanisée qui finalement sera la pierre angulaire de la victoire militaire de 1945 et de l'expansion consécutive du système communiste. La deuxième grande décision a été de collectiviser l'agriculture afin d'arracher à la paysannerie le capital indispensable au financement de cette industrialisation, mais aussi de placer les kolkhoziens dans un semi-servage et surtout de contrôler la production de nourriture et par là d'assurer au pouvoir un moyen de pression décisif sur l'ensemble de la société. La troisième décision a consisté dès le milieu des années 30 à instrumentaliser le nationalisme grand russe en liquidant ou en russifiant les minorités, je l'évoquais tout à l'heure, et en habillant du terme de patriotisme soviétique un chauvinisme ethnique russe, avec pour contrepartie dès 1943 la montée d'un antisémitisme très virulent, hypocritement nommé ensuite antisionisme ou anticosmopolitisme. Par ces trois décisions, Staline s'est solidement attaché les services des Russes afin de combattre les ferments permanents de désagrégation que représentaient les nationalités du nouvel empire communiste en cours de formation. Et ayant donc, par la terreur généralisée, par le contrôle du revenu de chaque habitant, par le contrôle du logement, du ravitaillement, par le contrôle de la culture et de l'opinion, ramené l'ensemble de la population à ce que j'appellerais le degré zéro de l'autonomie, le pouvoir a pu désormais reconstruire une « société » entre guillemets, comme il l'entendait. Il a évidemment exterminé ou réprimé tous ceux qui voulaient conserver une once de liberté et il a distribué ses prébendes et en ces temps effrayants, un lit avec des draps propres dans une maison chauffée et trois repas par jour était relativement un luxe. Donc il a distribué ses prébendes.
C'était Stéphane Courtois, directeur de recherche au CNRS, invité de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 24 février 2003. Stéphane Courtois présentait une communication intitulée « Staline ». Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte et ceux des autres communications sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.org. A comme académie, S comme science, M comme morale et P comme politique, donc www.asmp.fr. Vous pouvez également les écouter quotidiennement sur Canal Académie.